Hello, friend.
Il t'a déjà baisé ici sur le canapé?
Non, pas encore.
Jan, director inside sales. They call me Jan the man.
Oh.
When you say people, you mean companies, right?
Actually, no, sorry. Jan the man. By people, I do mean people, humans, consumers.
Cocksucker!
Yeah, glad to tell you that fucking word.
I'll tell you what I think. Wanna know what I think, Fox?
I'm hanging on it.
Are you? I think you're upset about the shushing. I think you were pissed off about the Hitler mustache on your father-in-law. I think you shook up that can of soda on purpose. And I think you're clomping now, and you've made up some bullshit excuse about your feet, and it's all under the guise of Parkinson's. That's what I think.
Rouge, c'est non. Double rouge, c'est double non.
The situation's a lot more nuanced than that.
You think I'm really boring, don't you? Well, get used to it, because now that your father is dead, you can forget about ever going to law school. It's just you and dead people and freaks like me for the rest of your life.
You know, everyone says it's not supposed to make sense, like that's the whole point, dude. And I'm just saying, you know, that's like an excuse for lazy storytelling. Just don't sell me shite and tell me it's gold. All right, I might be stoned, but I'm not high. You know what I mean?
We are God, we're thoughts, we are as smooth.
Are you an idiot?
No, sir, I'm a dreamer.
Bienvenue à l'écoute de Série Folie, l'épisode 16 de la saison 4, c'est maintenant. On va parler série télévisée avec notre amie Aurore. Bonsoir Aurore.
Bonsoir Ben.
Alors, bah vous le savez, hein, il y a un petit rituel. Chaque début d'émission, on revoit avec toi Aurore les nouveautés que tu as pu visionner pour nous dans les jours précédents. Hein.
Oui.
Et comme d'habitude, tu as trois choix.
Oui, j'ai trois choix, encore une fois. Et cette fois-ci, bonne nouvelle, ce sont des bons choix.
Ah oui, ok. Chaque fois une petite note positive, donc.
Voilà, alors on va commencer avec une comédie sur la Fox. Ça s'appelle The Mike. J'imagine que c'est comme ça qu'on le prononce.
On va pas le dire de Mick.
Ben, on pourrait.
Ben voilà, c'est dit. Ben, The Mike.
Donc The Mike. Ça nous raconte quoi? Ça nous raconte l'histoire d'une une jeune femme qui vient rendre visite à sa sœur qui a épousé un homme très riche et donc vit dans des beaux quartiers, qui a trois enfants et qui est en train de donner une réception, je ne sais plus du tout en quelle occasion, peu importe. Et le problème, c'est que durant cette réception, on va vite apprendre que apparemment le mari serait poursuivi par les autorités et donc serait obligé de fuir à l'étranger pour échapper à la justice, et sa femme aussi. Donc elle se retrouve catapultée du jour au lendemain, seule personne en charge des enfants, puisque ce sont finalement ses neveux et ses nièces, sauf qu'en vérité, elle ne les connaît pas du tout, elle n'est pas du tout une personne responsable. Au contraire, elle a une vie totalement dissolue, où finalement, elle ne s'occupe que d'elle-même et encore pas super bien. Donc, évidemment, on ne peut que s'attendre à des catastrophes. Sauf que, en l'occurrence, l'espèce de choc des cultures va plutôt être intéressant. Et c'est tout le but, évidemment, toute la saveur de cette série, puisque face à des enfants très, très BCBG, Elle va adopter une méthode frontale assez brutale parfois, qui est la seule méthode quelque part qu'ils sont capables d'entendre, alors qu'ils sont absolument pourrigatés et que jusque-là rien ne pouvait vraiment les arrêter. Donc ça, c'est un mélange qui fonctionne plutôt bien. Là, on commence doucement. Hein. Le pilote était vraiment une mise en place. Donc, ce ne sont que les quelques épisodes qui suivent dans lesquels on a pu voir vers quoi on pouvait aller. Évidemment, on se demande combien de temps ils peuvent traîner ce mode-là avant de devoir évoluer et s'ils évoluent vers quoi. Mais en tout cas, c'est sympathique à regarder.
Oui,
au minimum.
Je confirme.
Les trois enfants sont vraiment, vraiment bons, je trouve. Et l'actrice principale de cette série est connue des sériephiles, puisqu'il s'agit de l'actrice qui joue Dee dans It's Always Sunny in Philadelphia.
Et on peut dire qu'elle est... Si pas autant déjantée, elle est quand même bien déjantée comme dans Philadelphia.
Oui. C'est pas vraiment un rôle qui la change beaucoup. On peut tout à fait imaginer qu'il s'agit de Dee qui, tout à coup, se retrouve catapultée. Personne responsable de trois enfants. C'est le même personnage à peu près. Donc elle le tient bien. Hein. Ça fait des années qu'elle le joue, ce rôle-là. Donc il n'y a pas de souci.
C'est quasiment comme ça qu'on veut la retrouver. Donc voilà.
Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'elle est bien là-dedans. Donc voilà, une petite comédie plutôt sympathique pour le moment à suivre pour voir si ça continue ou pas.
Voilà pour demain, Mike. La suite.
Alors, la suite, il s'agira d'une comédie... D'une série, cette fois-ci, anglaise, une mini-série qui s'appelle Tabou.
Tabou.
Tabou, qui est diffusé par la BBC One. Donc Tabou, c'est une mini-série très esthétique, on va dire, donc qui risque de plaire aux gens qui aiment notamment les belles mises en scène, les belles images, la belle photographie, etc. Parce qu'il y a vraiment un beau travail à ce niveau-là. On y retrouve, ceux qui aiment la série Peaky Blinders devraient y trouver leur compte, vu qu'il s'agit autant du même acteur que, me semble-t-il, du même créateur. Donc, et c'est aussi une série historique, entre guillemets, puisqu'on se retrouve à l'époque victorienne à suivre un homme qui est assez mystérieux parce qu'il avait disparu pendant des années, tout le monde le croyait mort alors qu'il était parti en expédition en Afrique, et il revient alors qu'on est en train d'enterrer son père pour évidemment réclamer l'héritage paternel et éventuellement peut-être aussi faire toute la lumière sur la mort de ce père qui semble quand même un petit peu pas totalement naturel, quoi, pour le dire comme ça. Et donc le problème, c'est que l'héritage, c'est notamment un lopin de terre qui est stratégique pour la Compagnie des Indes, c'est comme ça qu'on l'appelle, les bateaux qui partaient, je sais pas.
Ah, l'aventure, la découverte
voilà,
du monde.
Enfin, qui allait faire du commerce dans le Nouveau Monde, quoi. Uh-huh. Et donc... On imagine bien que la Compagnie des Indes va essayer de lui faire vendre son terrain, ce que manifestement il n'a pas l'air prêt du tout à faire. Il a l'air d'avoir au minimum hérité de ses aventures un caractère très très trempé, et il n'y a rien qui pourra le faire changer d'avis, même toutes les intimidations, menaces de mort, etc. qui vont pouvoir lui tomber dessus. Et malheureusement, étant donné que les notables de l'époque sont plutôt des sacrés salopards qui n'hésitent pas à fomenter un crime ou l'autre à l'occasion. Évidemment, on se doute que il va devoir quand même affronter de vrais dangers, quoi. Donc voilà, on se retrouve face à ça. La dernière chose aussi qu'on voit dans le pilote, c'est qu'il y aurait une histoire trouble avec sa sœur. Apparemment, il lui souffle qu'il est toujours amoureux d'elle, donc c'est un petit peu bizarre. Ça explique peut-être pourquoi la série s'appelle Tabou, parce que jusque-là, on ne comprenait pas trop. Là, ah, tout à coup, ça t'intéresse.
Bah oui, évidemment.
Mais oui, évidemment. Donc voilà, j'en ai pas vu beaucoup pour le moment, vu que j'en ai vu que 2 épisodes. Mais oui, c'est une ambiance qui est tout de suite prenante. Ça, il faut le reconnaître. C'est très beau, très très bien réalisé. Il y a rien à redire là-dessus. Et les personnages sont impeccables. Donc voilà, pour ceux qui aiment les petites séries, les mini-séries historiques, jetez-vous
c'est
dessus.
Le bon plan.
C'est de la bonne, quoi. Voilà.
Voilà.
Voilà. Et on
termine oui.
avec la dernière qui s'appelle Emerald City, donc la cité d'émeraude. Cette fois-ci, il s'agit d'une série NBC. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont cette année-ci sur NBC. Ils nous sortent des séries non seulement potables, mais même un peu plus que ça, figure-toi. Hein. Ils nous avaient déjà surpris avec The Good Place pendant le début de la saison, et là maintenant Emerald City, franchement je m'attendais à très très vite pouvoir archiver cette série là parce que je m'attendais à un truc mal fagoté, super mal réalisé, où on voyait à 10 000 mètres les effets spéciaux pourris, etc. Enfin, je m'attendais vraiment à quelque chose de très moche et de très con. Et en fait, non. En tout cas, j'ai plutôt bien accroché à ce truc. Donc, on est vraiment dans une revisitation de l'histoire du magicien d'Oz. Hein. On suit une jeune femme qui s'appelle... Oui, bon, c'est plus une jeune femme, c'est vrai qu'une fille dans ce cas-ci, mais c'est... à peu près la seule grosse différence, suite à une tornade, va se retrouver dans un monde parallèle, un monde imaginaire qui s'appelle Oz, donc hein, on imagine, et qui va rencontrer sur sa route des alliés, probablement pour finir par aller retrouver le magicien.
Allez. C'est ce que tu as imaginé.
Mais écoute, je dois t'avouer que j'ai dû voir le film quand j'étais enfant, mais ça date un petit peu maintenant.
Ouais,
je veux pas révéler mon âge super.
Âge.
Mais oui,
oui
ça commence à dater. Hein. Et donc c'est, malgré tout, on reconnaît quand même un petit peu l'histoire d'origine, sauf que pour ceux qui se souviennent du film qui faisait quand même très très kitsch, et c'était l'époque aussi, hein, ici on est dans une volonté assez contemporaine de nous présenter un monde fantastique et qui a plus de, enfin, qui semble plus concret, tu vois, plus de matière, plus de saleté, plus, enfin, on sent qu'il y a de quoi se raccrocher, quoi. Hein. Il y a du sang, il y a de la poussière, ça fait plus réaliste entre guillemets, sachant qu'on est dans un monde totalement imaginaire.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire.
Je vois ce que tu veux
vois
dire.
Ce que je veux dire.
Il y a plus de références à des choses concrètes.
Oui.
Qui existerait, mais dans un monde imaginaire.
Voilà. Et c'est très bien fait. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien fait. On a des paysages avec des espèces de grands géants de pierre comme ça, qui sont pas mal du tout. On a des sorcières qui ont des attributs plutôt merveilleux et qui donnent bien. Il y a plein de petites astuces comme ça qui sont plutôt... plutôt étonnantes pour une série de network, finalement, et qui m'ont convaincue. Là, j'ai déjà vu 4 épisodes de la série, et franchement, ça me donne envie de continuer au minimum jusqu'au bout de la saison, parce que c'est plutôt accrocheur, quoi. Donc, voilà.
Voilà, ce sera le mot de la fin.
Oui, on peut dire ça comme ça, ce sera le mot de la fin. Donc, pour ceux qui voudraient le découvrir, Emerald City, c'est une série NBC.
Bon, petite pause musicale.
Alors, ben justement, on va s'écouter une chanson entendue dans cette série d'Emerald City. Ça s'appelle Ain't No Sunshine et c'est chanté par Bill Withers.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Nous voici de retour pour le sujet du jour, celui proposé par l'ami Aurore. On parle évasion sérielle aujourd'hui.
Oui, on va parler d'évasion, en effet.
Oui, j'essayais de partir, mais non, c'est pas possible. Je reste avec toi, finalement, je suis enfermé.
Ben oui, c'est...
Donc on va parler quoi? De Prison Break et...
T'aimerais bien?
J'aimerais... Non. Non.
Surtout que...
Ils sont de retour.
Mais oui, bientôt.
Ah ouais. On critiquera.
On est tous impatients.
Oui.
Mais non. Non, c'était pas ça du tout.
C'est plutôt s'évader dans la tête.
Voilà.
Oh. Bon, bah, allez, fais-moi rêver.
Donc, quand on parle de la série comme évasion, il y a 3 mots qui me viennent en tête. Ben, je dois t'avouer que j'ai un petit peu réfléchi avant de te les sortir, mais voilà, il y a un petit peu. Hein, j'ai 3 mots qui me sont venus en tête et j'espère que ça permettra de structurer un petit peu cette émission en 3 parties. La première partie sera donc consacrée à l'évasion en tant que divertissement, la deuxième à l'évasion en tant qu'exploration et la troisième à l'évasion en tant que métaphore.
Ouais, oui. le troisième, t'as dû te casser vraiment la tête pour le trouver.
Pas du tout, voyons.
Bon, divertissement, voilà. C'est quoi? C'est de la petite comédie, c'est des choses comme ça?
En bref, quand on parle d'évasion, on parle d'échapper au réel. Généralement. Quand on parle de la série en tant qu'évasion, on se dit que, ben oui, se mettre devant une série télévisée, ça va nous permettre de nous échapper un petit peu de notre quotidien morne et froid, surtout en hiver, et donc de nous faire plaisir en nous retrouvant dans un monde peut-être plus coloré, plus agréable, où les gens sont plus gentils, etc. Bon, cette dimension-là de la série et de la fiction en général même, il faut avouer qu'elle est à la base probablement en grande partie du mépris qui est voué encore aujourd'hui, même si c'est quand même de moins en moins le cas et de moins en moins fortement aussi, à la fiction en général et à la fiction télévisée en particulier. Pourquoi ? Ben parce qu'on est dans une culture plutôt qui va valoriser le réel, hein, l'utile, le fait que il vaut mieux se préoccuper de ce qui existe vraiment, de ce que cette réalité dans laquelle nous nous trouvons tous plongés, que de nous perdre et de perdre notre temps finalement dans la fiction.
Mm-hmm.
Ceci dit, oui. Malgré tout, bon, on a besoin de fiction et donc on va avoir toute une série de séries télévisées qui vont se décliner autour de mondes plus ou moins exotique, mais quand même avec un petit prétexte utilitaire qui serait que on apprend quelque chose quand même. C'est un petit peu pédagogique. Alors ça peut être parce que ça va nous présenter un monde historiquement réel à une époque. Et donc, on est plongé dans quelque chose de différent de notre quotidien à nous. Mais malgré tout, on apprend des trucs et ouais. On se sent un petit peu rassuré. Non,
oui.
ça te rassure jamais, toi, de
si,
dire
j'aime bien.
Je ne perds pas mon temps devant la télé, je regarde quelque chose d'instructif.
Ça, je fais jamais.
Ça, tu fais.
Mais non, moi, je suis pas comme toi.
Non, mais moi, je
aucun
déteste les séries historiques.
Aucun sentiment coupable par rapport à ça.
Mais voilà, mais moi non plus. Mais malgré tout, on peut reconnaître que certaines séries utilisent ce prétexte-là. Hein. Ce n'est pas que un divertissement. En plus, nous apprenons des choses.
Bah, moi, j'aime dans le style, c'est pas une série historique, mais celle qui s'appelle Mars, je pense.
Mm-hmm.
Là, où il y a quand même une base de reportage tout à fait officielle de National Geographic.
Ouais.
Et là, on apprend clairement quelque chose.
Oui, c'est vrai, parce que d'ailleurs, on n'en a pas encore parlé parmi les nouveautés, mais ça tombe bien, on peut en dire un mot là maintenant. On a entremêlé des témoignages et des reportages à la NASA. Hein ?
Oui, et sur le projet X, hein, donc le fameux projet réel qui est en cours d'ailleurs. Et on apprend où ils en sont, puisque c'est relayé certainement dans les médias américains, mais beaucoup moins par ici.
Mmh,
et c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont déjà expérimenté, ce qu'ils sont capables déjà de faire par rapport à l'exploration vers Mars. Et après, voir la théorie, en gros, appliquée à la pratique dans la série, on va dire, de fiction.
Oui.
Et voilà.
Oui, mais ça permet justement de voir comment la fiction peut appuyer vraiment un objectif pédagogique dans ce cas-ci. Mmh. Hein, on explique les choses de manière très concrète, tout d'abord en nous montrant certains locaux, certains personnages qui participent à cette grande aventure, etc. Et puis après, on nous met tout ça en scène pour un futur imaginé. Hein, et ça permet de donner vie à tous ces projets qui peuvent peut-être paraître un peu froids si on ne présente que la partie documentaire. Donc ça pourrait en effet rentrer dans une forme de série exotique entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle nous présente un monde qui ne ressemble pas exactement au nôtre, mais qui malgré tout va pouvoir avoir le prétexte de nous apprendre des choses. C'est le cas donc pour les séries historiques, mais ça peut aussi être le cas pour certaines séries qui vont nous présenter d'autres cultures ou d'autres milieux géographiques que l'on connaît moins et où on va avoir la même excuse, entre guillemets, ou bien éventuellement même d'autres modes de vie, d'autres métiers, d'autres villes, etc., etc. Donc, en bref, d'autres quotidiens que le nôtre qui nous sont montrés. Et comme ça, on se dit, ah ben j'ai une idée un petit peu plus précise de ce que peuvent ressentir, ce que peuvent vivre les gens qui vivent différemment de moi sur d'autres parties du globe, finalement.
Oui.
Donc ça, c'est première réponse à cette idée qu'on aurait une sorte de dimension méprisée de la fiction. Mais en même temps, si on y réfléchit, oui, ok, il y a une exigence d'être réaliste, etc. Mais en même temps, le rêve, l'imagination, tous ces sentiments, toutes ces pensées qui peuvent nous habiter à l'intérieur de nos petites têtes et de nos petits cœurs, mais ils font aussi partie de la réalité, même s'ils ne sont pas visibles, même s'ils ne sont pas aussi facilement partageables et concrets, mais ils existent bel et bien. Et donc, ne pas les représenter du tout, ça pourrait finalement être moins réaliste, si on y pense bien, si on y réfléchit bien, ce serait moins réaliste de nous présenter un monde dans lequel il n'y aurait absolument rien d'imaginaire, aucune intériorité des personnages, ils ne font jamais de rêve, etc., etc., quoi. Donc, il doit quand même y avoir des séries qui laissent de la place à toutes ces choses-là. Donc on va avoir les séries notamment qui donnent une place importante aux rêves ou au minimum à des états de conscience un petit peu altérés ou différents de celui auquel on est habitué. Je pense par exemple à des séries comme Hannibal ou Mr. Robot qui nous présentent une forme de réalité, vu que dans l'intériorité des personnages eux-mêmes, ils le vivent vraiment comme ça, mais en même temps, ça n'est pas la même réalité que celle qui est partagée par tous les autres personnages qui se trouvent autour de lui.
Oui, ils sont un peu à la ramasse à ce niveau-là.
Ils sont un petit peu à la ramasse. Le rêve aussi, hein, dans beaucoup de séries, va permettre notamment d'appuyer, de nous donner des indications sur un danger éventuel à venir, sur les sentiments et les intuitions que peut avoir un personnage, etc., etc. Donc le rêve a aussi son importance, même si évidemment il est moins réel. On a aussi toutes les séries qui laissent beaucoup de place au monde intérieur, aux sentiments des personnages, en nous les montrant de manière très imagée. Mais finalement, ça permet de donner vie à ces réalités qui, autrement, ne pourraient jamais être représentées. Par exemple, on peut penser à une série comme Ally McBeal ou comme Scrubs, dans lesquelles vraiment on a une représentation de ce qu'ils sont en train de s'imaginer dans leur tête. Et puis on revient à la situation telle qu'elle est réellement. Ça, c'est une manière de faire. Ou bien alors, dans certaines séries fantastiques, on a carrément certains sentiments qui sont incarnés dans des monstres que le héros va devoir combattre physiquement. Et donc, on a vraiment une confrontation là beaucoup plus concrète, mais qui n'est que le symbole de sentiments qui, d'habitude, ne sont pas concrets et réels. On va aussi avoir les séries qui vont faire une grande place à l'imaginaire ou simplement aux références de notre imaginaire. Par exemple, c'est toujours un petit peu étonnant d'avoir des séries dans lesquelles on a des personnages qui semblent n'être absolument pas au courant de tout un pan de culture culture imaginaire que nous avons tous, qui ne connaissent pas les mythes, qui ne connaissent pas les histoires de vampires, de zombies, de que sais-je encore, qui semblent être totalement vierges de tout cet imaginaire-là dont on est tous habités. Et donc, je pense évidemment à la série The Walking Dead, dans laquelle ils semblent totalement ne pas avoir conscience que cette situation a déjà été imaginée avant eux, ce qui est finalement assez étonnant et presque irréaliste dans la situation qui nous est présentée, puisque si ça nous arrivait vraiment, on ferait le lien assez rapidement avec toute la littérature, toutes les fictions qui existent déjà sur des sujets semblables, quoi.
Similaires, oui.
Voilà, et donc, on peut évidemment penser à beaucoup de séries qui font des références comme ça à tout ce qui peut exister, tout ce qui a préexisté comme référence imaginaire. Je pense notamment à une série comme Les Simpsons qui se nourrit exclusivement de ça, quasiment, et qui à son tour va pouvoir nourrir l'imaginaire. Et donc c'est une sorte de d'alimentation sans fin qui peut s'opérer à ce niveau-là. Voilà.
Voilà, on a déjà fini pour la première partie, donc le divertissement,
oui.
Si on veut. Musique.
Oui, musique. On va s'écouter Somebody's Watching Me de Rockwell, entendu dans Superstore. We'll be right back.
la suite de l'émission qui vous parle de l'évasion sérielle avec Aurore. Le deuxième mot pour décrire la deuxième catégorie que tu as voulu utiliser, c'est celle de l'exploration.
Oui, alors j'ai donc commencé avec la plus évidente, le divertissement, même si
Ben oui, je te regarde.
Oui.
On en a parlé pendant la musique.
Oui, donc le divertissement, même si évidemment, et on reconnaît assez rapidement que de ce divertissement, on a très vite besoin de justifier la nécessité ou l'utilité. Et donc, on finit par commencer à poser des questions sur qu'est-ce que ça peut m'apprendre, qu'est-ce que ça peut m'apporter, etc. Est-ce que vraiment, c'est pas une perte de temps, etc., etc. Alors,
côté
ici,
exploration.
On va totalement plonger dans la prise de position selon laquelle, mais non, ça n'est pas une perte de temps, et notamment parce que ça va permettre une exploration. L'évasion, c'est aussi de l'aventure, et même en fiction, eh bien évidemment c'est une autre forme d'aventure, mais c'est l'occasion d'explorer des mondes un petit peu différents, des mondes qui vont nous permettre de remettre en question le nôtre et donc d'enrichir aussi notre propre expérience de la réalité.
Est-ce que l'exploration peut simplement parfois se limiter à je sais pas moi, cette vision qu'on a de en tant que touriste, moi, il y a des séries que je ne regarde que parce que le décor me plaît, qu'on est aux États-Unis, sur les grands espaces, ce genre de choses, et ça me suffit.
Oui, oui.
C'est mon exploration
pas,
à moi.
Pourquoi pas, même si dans ce cas-là, alors c'est plus le petit intérêt exotique dont je parlais
précédemment.
Okay. Voilà. Ici, il y a quand même une utilité
envie,
un petit peu intellectuelle,
voilà,
de développer certaines idées pour voir jusqu'où on peut les mener, quoi. Donc c'est ce que vont nous permettre les mondes un petit peu différents d'une autre. Donc ici on n'est plus dans les séries qui se veulent réalistes entre guillemets toujours, hein, puisque finalement on est toujours en train de parler de fiction, mais on est dans des séries qui vont nous proposer des mondes un petit peu différents.
Des univers vraiment pas communs.
Voilà, oui. Alors, il y a plusieurs catégories parmi ces séries-là. Évidemment, il y a toutes les séries qui vont nous proposer soit une situation d'utopie, soit de dystopie, soit en général de science-fiction. Donc, on se projette loin, ou plus ou moins loin, en tout cas, dans l'avenir, en imaginant ce que ça pourrait donner. Parmi ces idées-là, on peut rester sur des formats finalement assez proches de notre réalité. Je pense par exemple à la série de Wire qui met en scène la mise en place d'un quartier Amsterdam dans lequel on fait une sorte d'expérience
sociétale.
Comment fonctionnerait la société si on dépénalisait les drogues finalement, et ça permet d'imaginer un petit peu où ça pourrait mener, ce que ça pourrait donner, même si ce n'est qu'une expérience de pensée. C'est quand même intéressant comme exploration à suivre. Je pense aussi à la série Oz, où là aussi le principe c'est, tiens, si on avait une prison un petit peu expérimentale dans laquelle on mettait tous les prisonniers les plus dangereux,
ouais,
ensemble.
Est-ce qu'ils vont
ça,
se manger les uns les autres? Eh bien oui.
Dans une relative liberté, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, devine. Forcément, il va y avoir beaucoup de meurtres, peut-être un petit peu trop pour que ce soit totalement réaliste même, mais
ça fait plaisir.
Mais malgré tout, l'intention y est. On a une petite utopie à la base Bon, qui sert un petit peu, il faut l'avouer, de prétexte plus qu'autre chose dans ce cas-ci. On a aussi évidemment plus du côté dystopie là, des séries du genre The Man in the High Castle. Où on imagine, tiens, comment serait le monde si Hitler avait gagné la Seconde Guerre mondiale, qui nous donne à nouveau une occasion d'explorer un petit peu la réalité de manière totalement transformée. Et ça peut être une expérience de pensée aussi assez intéressante. Évidemment, quand on parle de séries comme The Walking Dead, c'est aussi totalement une dystopie. Hein. C'est aussi voir jusqu'où l'humanité est capable de se déshumaniser si on est dans une situation de pénurie et de danger imminent permanent. Quoi. Mmh. Donc voilà, toutes ces séries-là, finalement, sont sur ce modèle-là. Ça permet de voir plus loin, quoi, plus loin que simplement notre situation actuelle, faire des expériences sur ce que ça pourrait donner si. De même, toutes les séries, par exemple, qui se passent dans l'espace, sur le modèle Star Trek, etc., sont aussi des séries qui vont nous présenter de nouvelles formes d'organisation, notamment d'organisation politique, etc., qui sont aussi des modèles assez intéressants à regarder, parce que toutes ces formes imaginaires-là, finalement, ça peut servir de base aussi à de réels projets politiques, entre guillemets, plus tard, quoi. Tant qu'on ne les a pas imaginés, on n'est pas capable de les mettre en place, évidemment. Donc, toutes ces expériences de pensée peuvent être utiles, finalement, aussi pour notre avenir. Entre guillemets, bien sûr, hein, on va pas imaginer qu'on va révolutionner le monde entier. Hein. Donc ici, on est sur un modèle très politique, mais sur un modèle plus personnel, on a aussi toute une série de fictions dans lesquelles on a des mondes un petit peu alternatifs, des temporalités alternatives qui vont permettre d'explorer le what if, hein, qu'est-ce qui se passerait si. Que se serait-il passé si, et notamment cette année-ci, on a eu, vu qu'on a eu toute une fournée de séries qui exploraient le voyage dans le temps, ça permettait d'avoir ce genre de questionnement-là, les séries comme Timeless ou Frequency, par exemple, ouais. Dans lequel on change un petit élément dans le passé et ça transforme la vie du héros principal de la série, et donc ça permet un petit peu de voir un monde avec une temporalité un tout petit peu déviée. Ça peut aussi être intéressant pour ça, même si c'est moins ici dans une dimension politique, mais plus dans une dimension personnelle.
Je les trouve d'ailleurs, toutes ces séries à base de machines à remonter dans le temps, un peu, comment dire, récurrentes. Chaque fois qu'il modifie quelque chose dans le futur, ah, c'était pas ça qu'on voulait faire, on va y retourner deux minutes avant, trois ans plus tard. Voilà, c'est juste ça. Une petite remarque par rapport à ça, ils sont pas très originaux.
Oui, malheureusement, c'est vrai qu'on peut très vite tomber dans le prétexte, hein, simplement, parce qu'évidemment, s'ils trouvaient la solution du
tout
premier
suite,
coup,
bon,
ce serait
fini.
Plus une série, ce serait un film, donc on est obligé d'y retourner à chaque épisode. Ça, c'est un petit peu la limite de l'exercice sériel, évidemment. Donc, voilà, ça, c'est un autre type d'exploration qui est possible. On a aussi toutes les séries qui vont nous proposer dans la même fiction des mondes parallèles dans lesquels on va pouvoir explorer un petit peu comment ça se passe des deux côtés. Alors on peut penser évidemment
à Fringe,
bien sûr, la bien nommée qui justement nous propose un monde comme ça un un petit peu fantastique, assez chouette parce que bah, ça permet des rencontres entre des personnages qui sont comme des jumeaux en miroir comme ça, et ça c'est assez agréable pour le spectateur d'imaginer ça. D'ailleurs, dans certains épisodes de série, on a pu avoir ce genre de choses-là. Je pense notamment à l'épisode dans Seinfeld où Hélène rencontre tout un groupe ce sont exactement les miroirs de Jerry, George et Kramer, qui est assez marrant. C'est vrai que cette rencontre est toujours interpellante, quoi. Et ce serait intéressant de se demander pourquoi ça nous plaît autant, finalement. Bref, Emerald City, c'est un petit peu le principe aussi, hein, de la série dont on a parlé au tout début. Ben, on se retrouve comme ça, propulsé dans un monde parallèle, dans lequel, si on arrive à évoluer dans ce monde-là, eh bien, peut-être que ça permettra de rentrer chez soi, ou même, pourquoi pas, de modifier les choses dans le vrai monde. Donc, il peut y avoir des interconnexions entre les deux. Dans une série comme Outlander, on a aussi un monde parallèle, puisque l'héroïne se trouve propulsée là dans le passé, dans Awake, dans lequel dans une des réalités c'est son fils qui est mort, dans l'autre réalité c'est sa femme qui est morte, et il voyage comme ça entre les deux réalités, et ça lui permet de résoudre des enquêtes grâce au savoir qu'il a dans une dimension pour pouvoir résoudre une affaire dans l'autre. Enfin, ce sont toutes des fonctionnements comme ça qui sont des exercices, finalement, d'imagination et de pensée, toujours très, très féconds et donc très, très agréables à regarder, parce que ben, ça nous bouleverse un petit peu les neurones, ça nous les met sans dessus-dessous, et c'est un vrai jeu, quoi. On se retrouve un petit peu comme un gosse devant ça, à vouloir jouer avec. Une série comme Lost aussi, hein, avec ses différentes temporalités, etc., va aussi pouvoir nous présenter dans certaines saisons des mondes parallèles. Once Upon a Time.
Once Upon a Time, je voulais le dire, oui.
Oui, Once Upon a Time,
si
dans lequel non seulement on a un petit monde dans le monde, hein, puisque la ville de Storybrooke est elle-même une sorte de microcosme un petit peu isolé du reste du monde. Mais on a en plus le parallèle avec le monde des contes de fées, entre guillemets, et plus évidemment tous les mondes qui se rajoutent après dans les saisons qui suivent. Mais on va pas exagérer. Dans Angel, ils partent aussi dans un monde parallèle à un moment. Et puis, je voulais aussi parler de The Good Place, qui finalement nous propose une sorte de monde idéal, qui serait le paradis.
Mm-hmm.
Ou on ne sait pas. Et voilà.
Tu en as déjà trop dit. Oh.
Oui, j'en ai déjà trop dit. Mais franchement, ça aussi, si vous ne l'avez pas vu, cette série-là, il faut absolument vous plonger dessus. En plus, elle a été renouvelée pour une saison 2, donc faut pas passer à côté. C'est absolument génial. Voilà, on va s'arrêter là pour l'exploration.
Oui, musique.
On va s'écouter I Want to Break Free, évidemment, de Queen, entendu dans le dernier épisode de Sherlock.
But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free.
Et voilà, on attaque déjà la dernière partie de Sérifolie, cette émission qui vous parle de l'évasion sérielle et la métaphore dans tout ça, Aurore.
Oui, avec quoi est-ce que je viens là ?
Mais oui.
La métaphore, ça n'a rien à voir avec l'évasion. Et tu as raison, ça n'a rien à voir. Mais en fait, je me suis dit que le fait de s'évader dans des mondes imaginaires, ça pouvait... Enfin, non, en fait, le fait qu'on ait des héros auxquels il arrive plein d'aventures et qui se retrouvent face à des mondes un petit peu parallèles, ça peut totalement être la métaphore de ce que nous vivons, nous, par rapport à notre imaginaire et notamment par rapport aux fictions qui nous sont présentées. Voilà, c'est pour ça qu'on peut estimer que les séries, finalement, seraient une métaphore. Alors, une métaphore à deux degrés. Le premier degré, ce serait simplement que ce sont des métaphores de la réalité. Hein, chaque série nous propose un monde qui fonctionne tout seul, hein, sur lui-même, qui a une sorte de microcosme. On peut évidemment penser à toutes les séries possibles et imaginables, mais un exemple très frappant, ce serait les Simpsons, encore une fois, hein, dans lesquels... Mais, tout ce qu'on peut, tout ce dont ils peuvent avoir besoin qui existe sur la planète se trouve dans la petite ville de Springfield. De même, tous les personnages possibles et imaginables vont pouvoir aussi se retrouver dans la petite ville de Springfield. Donc c'est assez pratique. Springfield, c'est le monde, ou au minimum, dans ce cas-là, peut-être simplement l'Amérique, mais tu sais bien que pour les Américains, l'Amérique, c'est le monde. Hein.
Ah, oui.
Donc voilà. Mais on peut penser à une série comme Deadwood, par exemple, qui est finalement une série historique, mais quand on regarde la ville qu'il nous propose, c'est un petit peu la métaphore de ce que c'est une civilisation en train de naître, qui nous est proposée aussi. Et donc, ça peut être intéressant dans cette lecture-là aussi. Évidemment, une série comme Game of Thrones également va pouvoir être une métaphore autant des dangers éventuels qui peuvent planer sur notre monde bien réel. Hein. On a tous en tête le Winter is Coming qui n'en arrête pas de venir. Et puis, bien sûr, toute la dimension de pragmatisme politique dont doivent faire preuve les différents personnages et qui nous appellent peut-être nous aussi à nous comporter de cette manière dans le monde réel. Donc voilà, évidemment, on pourrait sortir tous les exemples possibles et imaginables. Donc une métaphore de la réalité. Deuxième métaphore, eh bien, l'évasion que représentent nos séries comme métaphore de l'évasion que constitue la fiction en elle-même comme monde alternatif, tout simplement.
Voilà.
Voilà.
Cette fois-ci, c'est vraiment le mot de la fin.
Oui.
Merci à toi Aurore, on va se quitter en musique dans quelques instants, juste après avoir rappelé que cette émission est évidemment podcastée, elle sera disponible dans les prochains jours via le site internet www.seriefolie.be avec sa série ou bien via les réseaux sociaux tels que Facebook ou bien encore Twitter, recherchez après Série Folie. La musique pour se dire au revoir.
Il s'agit de United States of Eurasia, entendu dans Les Simpsons et proposé par Muse.
Merci Aurore, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.